Vous écoutez France Culture.
Il est midi et demi. Tout de suite, le journal de Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous irons tout d'abord au Cambodge, où les deux plus hauts dirigeants Khmer Rouge, encore en vie, ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie pour génocide, un qualificatif retenu pour la première fois par le tribunal international. 40 ans donc après la chute du régime qui a fait quelques 2 millions de morts.
Quand l'Arabie Saoudite essaye de tirer un trait sur le meurtre du journaliste assassiné Jamal Khashoggi.
Et le procureur général d'Arabie Saoudite a requis hier la peine de mort à l'encontre de 5 des 11 suspects inculpés dans l'enquête. De son côté, la Turquie affirme disposer de nouvelles preuves témoignant du caractère prémédité de cet assassinat.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le gouvernement espagnol vient de publier un nouveau plan pour le climat.
Oui, un plan ambitieux avec notamment une électricité 100% renouvelable d'ici 2050. Au Royaume-Uni, la première ministre britannique Theresa May est à l'offensive encore aujourd'hui, bien déterminée à défendre jusqu'au bout son projet d'accord sur le Brexit comme son avenir.
En France, dimanche se tiendra le premier tour de la législative partielle organisée dans la première circonscription de l'Essonne.
Une élection destinée à pourvoir au remplacement de Manuel Valls, un scrutin local mais à valeur de test national. Et puis, la veille, autrement dit demain, quelques 1500 actions d'automobilistes excédées par la hausse des taxes sur les carburants sont attendus partout en France, même si encore ce matin le gouvernement assure écouter la colère des gilets jaunes. Enfin, invité de ce journal dans une vingtaine de minutes, Karima Delli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts et présidente de la commission transport au Parlement européen. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
À l'occasion du centenaire de la naissance de l'écrivain russe Alexandre Solzhenitsyn, retour sur la vie et le combat d'un homme en lutte avec son siècle, c'est ce que nous dira l'historien et traducteur Georges Niva, notre premier invité, et la journaliste Véronica Dormant, ancienne correspondante à Moscou. Elle nous reparlera de la place qu'il occupe aujourd'hui dans la mémoire collective russe.
Merci, à tout à l'heure. Justice, année zéro. Pour la première fois, le génocide cambodgien a été reconnu aujourd'hui par un tribunal international parrainé par l'ONU. Ce matin, les deux plus hauts dirigeants Khmer Rouge, encore en vie, ont été condamnés en ce sens à la prison à vie. Un verdict historique donc, car jamais jusqu'à présent le mot de génocide n'avait été gravé pour qualifier les exactions commises entre 1975 et 1979 par le régime Khmer ultra-maoïste, lequel a conduit à la mort près de 2 millions de personnes, soit un quart de la population totale du pays. Reste toutefois une nuance de taille. Le verdict de ce matin porte sur des accusations de génocide à l'encontre des Vietnamiens, de la communauté musulmane et d'autres minorités religieuses. Ce qui signifie qu'il ne concerne pas en revanche les massacres, fussent-ils de masse, des Khmers par les Khmers qui, eux, ne sont toujours pas considérés aujourd'hui par l'ONU comme un génocide. Alors d'où vient cette difficulté à juger dans son intégralité ce chapitre sanglant de l'histoire du Cambodge? Cela tient-il à la difficulté de qualifier juridiquement ce qu'est un génocide ou bien à une absence de volonté politique? Réponse depuis Phnom Penh avec notre correspondante Éléonore Sok.
Beaucoup de raisons en lien avec l'histoire complexe du conflit cambodgien expliquent ces difficultés. Quand en 1979, l'invasion du Vietnam met fin au régime de Pol Pot, les combats ne cessent pas pour autant. Plusieurs factions continuent de se livrer des batailles destructrices jusqu'en 1998, année de la mort de Pol Pot. Les défections des autres leaders Khmer Rouge sont alors obtenues contre des promesses d'amnistie, dans une logique de réconciliation nationale. En 1999, le premier ministre Hun Sen donne alors son accord pour la création d'un tribunal international spécial. C'est une structure hybride à moitié composée de juristes cambodgiens et à moitié d'étrangers, parrainée par les Nations Unies. À ce moment-là, quatre hauts dirigeants sont encore en vie, Nguyen Chi, Khieu Samphan, Yeng Sari et Yeng Tirit. Ils avaient repris une vie normale dans le civil et ne sont mis derrière les barreaux qu'en 2007. Le travail est ensuite long, fastidieux, il a fallu réunir les témoignages de milliers de personnes qui se sont portées partie civile et le tribunal a connu des phases d'avance-recul. Hun Sen, à la tête du pays depuis 33 ans, est lui-même un ancien Khmer Rouge ayant fait défection pour rejoindre les Vietnamiens. De nombreux cadres au pouvoir ont, de près ou de loin, fait commerce avec les Khmer Rouges, ce qui explique qu'ils n'ont aucun intérêt à voir les procès se tenir et que ce verdict pourrait être le dernier.
L'agence d'État officielle nord-coréenne n'a publié qu'une seule photographie pour accompagner sa dépêche, mais l'annonce fait d'ores et déjà l'effet d'une bombe. Kim Jong-un aurait supervisé le test d'une nouvelle arme tactique ultra-moderne de haute technologie. Alors la nature de l'arme n'a pas été spécifiée, reste que c'est la première fois que Pyongyang fait ainsi état d'un essai d'armement qui plus est couronné de succès depuis que la Corée du Nord a annoncé, c'était en avril dernier, la suspension de ses essais nucléaires et de missiles balistiques, méthode de gangster ou pas, la reprise de ces tests jette à tout le moins de sérieux doutes sur le délicat processus de négociation en cours. Pour autant, le département d'État américain ne semble lui pas inquiet et se dit même confiant que les assurances faites par Kim Jong-un pendant son sommet avec Donald Trump seront tenues. Au Yémen, sous la pression des puissances occidentales, la coalition arabe sunnite menée par l'Arabie saoudite aurait ordonné la suspension de son offensive contre Hodeïda. Hier, la ville portuaire a connu de fait sa troisième journée consécutive de calme. Les magasins et les écoles situées dans les zones de combat ont même rouvert. Un calme toutefois précaire. Nombreux sont ceux sur place à craindre une reprise des violences. Les bombardements et les combats entre les rebelles aussi qui contrôlent la ville et la coalition pro-gouvernementale ont laissé un lourd bilan. Près de 600 morts en seulement 12 jours. Alors, si l'Arabie saoudite semble aujourd'hui céder aux pressions de la mal nommée communauté internationale, du moins s'agissant de son offensive circonscrite autour de la cité d'Hodeïda, c'est en partie parce que l'image du royaume wahhabite est aujourd'hui éclaboussée par le sang du journaliste Jamal Khashoggi, tué à Istanbul le mois dernier. Hier, la justice saoudienne a requis la peine de mort contre 5 responsables de l'assassinat. 11 autres personnes ont également été inculpées. En revanche, et sans surprise, le procureur a blanchi le prince héritier Mohamed Ben Salman au prétexte que l'homme fort du royaume n'aurait rien su de cette opération qui a mal tourné. Une version qui peine à convaincre. Elle a d'ailleurs aussitôt été démentie par la Turquie qui, elle, insiste au contraire sur le caractère prémédité de cet assassinat. Preuve à l'appui, c'est ainsi qu'hier, Ankara a dit notamment disposer d'un deuxième enregistrement audio contredisant la version officielle livrée par Riyad. C'est une correspondance à Istanbul signée Alexandre Billette.
Les déclarations du parquet saoudien ne vont pas dans le sens souhaité par Ankara. Le chef de la diplomatie turque a reconnu que c'était un pas positif, mais surtout que les explications étaient insuffisantes. Insuffisantes parce qu'aux yeux du pouvoir turc, l'assassinat n'a pas été décidé sur place à Istanbul, mais bien à l'avance, et que les commanditaires sont deux très hauts responsables de l'État saoudien. En fait, la Turquie veut obliger le pouvoir de Riyad à reconnaître ses responsabilités dans le meurtre. C'est la raison pour laquelle notamment la presse turque pro-gouvernementale a accès à des fuites sur l'enquête qu'elle publie jour après jour. Et ce matin encore, un éditorialiste du quotidien Hurriyet affirme qu'il y aurait un deuxième enregistrement qui prouve le caractère prémédité du meurtre et qu'il y aurait également des conversations téléphoniques enregistrées qui accréditent cette hypothèse. Ankara met également la pression sur Riyad en demandant désormais la tenue d'une enquête internationale pour faire toute la lumière sur l'assassinat du journaliste. La demande a été immédiatement rejetée par l'Arabie saoudite qui proposait plutôt un accord avec la Turquie afin d'échanger les informations des deux pays sur le meurtre. Une proposition évidemment restée sans suite de la part d'Ankara.
En Californie, le bilan des victimes de l'incendie d'ores et déjà le plus meurtrier de cet état de la côte ouest des États-Unis s'est encore alourdi hier. 66 morts et plus de 600 disparus. Le président Donald Trump, lequel avait suscité la polémique le week-end dernier en imputant le sinistre à, je cite, la piètre gestion des forêts, est attendu demain sur les lieux pour y rencontrer des rescapés de la catastrophe. En Floride, plus d'une semaine après les élections de mi-mandat, la confusion persiste dans un nouveau développement qui n'est pas sans rappeler la rocambolesque présidentielle de l'an 2000. Les autorités ont ordonné hier un dépouillement à la main pour déterminer enfin le vainqueur de l'élection au Sénat, et puis en plus de la course pour le siège au Congrès, d'autres élections attendent toujours là aussi de voir enfin désigner un vainqueur, en particulier celle pour le poste de gouverneur. Au Royaume-Uni, après une folle journée ponctuée par des démissions du gouvernement, une rébellion au Parlement contre le projet d'accord de sortie de l'UE, mais aussi un complot ourdi contre Theresa May dans son propre camp, la première ministre reste stoïque. La chef de l'exécutif a même lancé ce matin une opération de charme envers les Britanniques pour les convaincre des bienfaits du projet d'accord en répondant aux questions des auditeurs de la radio LBC. Élise Delève, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Pendant près d'une demi-heure, Theresa May a adopté un ton presque enjoué, tout en défendant bec et ongle donc son projet d'accord avec l'UE.
Et oui, à chaque fois qu'elle pourrait reculer, au contraire, Theresa May fonce tête baissée. Cet accord si durement négocié, c'est le meilleur qui soit pour le pays, répète-t-elle en pleine tempête. Les critiques fusent de tous les côtés, dans l'opposition, chez ses alliés, dans son propre camp. Hier, elle a subi 3 heures d'attaques et de questions des députés. Elle n'a pas changé de cap. Dans la soirée, elle a donné une conférence de presse. J'irai jusqu'au bout. Et ce matin, en direct sur la radio LBC.
Quand cet accord sera finalisé et qu'il arrivera au Parlement, j'espère que tous les parlementaires tiendront compte du fait qu'il est nécessaire de respecter le résultat du référendum. J'espère qu'ils penseront aux intérêts nationaux et à l'économie. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai ramené ce que je pensais être le meilleur accord pour le Royaume-Uni. Les députés doivent faire leur travail.
Stoïque en pleine tourmente, Theresa May tient bon. On parle d'elle ici comme d'une nouvelle dame de fer, encore plus forte que Thatcher, car plus tacticienne, déterminée et tenace. Son surnom, Maybot, un jeu de mots entre May et robot, robot. Dans un long éditorial, The Guardian explique que si Theresa May ne bouge pas et reste toujours sur la même ligne, c'est qu'elle est dans le déni. Les bourrasques ne semblent pas atteindre à la première ministre, elle ignore le chaos et traverse les pires tempêtes depuis 2 ans sans jamais lâcher.
Merci Élise Delève en direct de Londres avec Pierre Quintard pour les moyens techniques. Quand l'Espagne semble bien décidée à montrer l'exemple de la transition énergétique en Europe, on savait déjà que les voitures essence, diesel et même hybrides seront interdites à la vente à partir de 2040. Et cette semaine, le gouvernement socialiste a annoncé une autre mesure écologiste non moins spectaculaire, 100% de renouvelables d'ici 2050. Et pour ce faire, Madrid entend se passer du nucléaire d'ici 10 ans. Mathieu de Taillac, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de Madrid. Alors les 7 centrales du pays fournissent aujourd'hui 21% de l'électricité produite en Espagne. Elles seront fermées petit à petit au fur et à mesure de la fin de leur vie utile. Pour autant, le gouvernement socialiste a-t-il véritablement un plan bien défini pour sortir son pays du nucléaire ?
Ben, pas vraiment, Thomas. On a pris cette information hier lors de déclarations à la presse du secrétaire d'État à l'énergie en marge d'un forum. Alors, ce que dit José Dominguez, c'est que les centrales nucléaires ont une durée de vie normale de 40 ans, après quoi il faut soit les remettre à jour en réinvestissant des sommes très importantes, soit les démanteler. Eh bien, l'Espagne choisit de les démanteler. À chaque fois qu'une centrale arrivera en fin de course, en bout de course, elle sera fermée et cela devrait se passer entre 2023 et 2028. Alors, c'est une décision importante parce que le nucléaire, certes, représente une part bien moins élevée qu'en France. On est à 21% de l'électricité produite en Espagne. Mais c'est quand même la première source d'électricité devant les éoliennes qui sont à 18% et le charbon qui est à 17%. Le charbon, on le sait, est extrêmement polluant. Le gouvernement veut aussi s'en débarrasser d'ici 2030. Sauf que pour le moment, on ne sait pas vraiment comment l'Espagne compte faire pour compenser ces deux sources. Par exemple, vous pouvez me dire que le pays ne manque pas de soleil, mais l'Espagne est pourtant 12 fois moins équipée en plaques photovoltaïques que l'Allemagne, pays où le climat, c'est moins qu'on puisse dire, n'est pas aussi favorable. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement socialiste n'a pas de majorité structurée au Parlement. Il a les pires difficultés, par exemple, pour faire adopter son budget. Et, hasard ou coïncidence, il n'en est pas à sa première annonce écologiste. Or, ce sont des annonces qui ne coûtent pas cher, en tout cas dans l'immédiat. Ce sont des mesures qui ne nécessitent pas un vote au Parlement et qui permettent de se différencier de la droite. Alors, par conviction ou par intérêt électoral, Madrid, en tout cas, se hisse à la pointe de la lutte contre le changement climatique.
Merci Mathieu de Taillac, en direct de Madrid. Après le départ de Manuel Valls, parti à la conquête de la mairie de Barcelone, dimanche se tiendra le premier tour de la législative partielle organisée dans la première circonscription de l'Essonne. A priori, les deux favoris en lice sont connus. D'un côté, Francis Choix, le nouveau maire d'Evry, ex-PS, soutenu par La République En Marche. Et de l'autre, Farida Amrani, la conseillère municipale d'opposition de la France Insoumise. Ou quand la succession de Manuel Valls à l'Assemblée se transforme à présent en match Macron versus Mélenchon. Steven Goyer, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors à chaque élection partielle, le refrain semble toujours le même, scrutin local ou test national. Et en l'occurrence, à bien des égards, cette législative apparaît effectivement comme une sorte de condensé de l'état actuel des forces sur l'échiquier politique.
Et c'est d'abord un premier vrai test pour la majorité. Un vote au lendemain du mouvement du 17 novembre pourrait permettre de se faire une idée, même sur un scrutin local, du report de la colère récemment exprimée. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, voté La République En Marche, on communique assez peu sur la candidature soutenue, celle de Francis Choix, le maire d'Évry, successeur et proche de Manuel Valls, qui peut aussi se targuer d'avoir derrière lui les maires étiquetés à droite des 5 autres communes de la circonscription. Et pourtant, la droite présente aussi un candidat, Jean-François Bayle, adjoint LR au maire de Corbeil-Essonne, qui ne bénéficie donc pas du soutien de son supérieur hiérarchique. Et la raison à cela, elle est simple. Les élus concernés veulent à tout prix éviter l'élection de la candidate France Insoumise, Farida Amrani, qui avait frôlé la victoire en 2017 avec 139 voix de retard sur Manuel Valls. Et justement, c'est aussi de ce côté de l'échiquier qu'on attend quelques enseignements, à savoir le maintien ou pas du socle électoral, malgré l'image un peu écornée du leader du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, suite aux colères aperçues lors des perquisitions de ses locaux et les baisses de popularité dans les sondages qui ont suivi. La France Insoumise, qui compte justement surfer sur l'effet mécontentement des dernières semaines et forcément sur la journée du 17 novembre, sur une circonscription assez peu favorable au Rassemblement National. Sauf que l'opposition est à nouveau très éclatée à gauche, avec une liste PCF conduite par Michel Noailles et soutenue par Génération, et la liste écologiste d'Eva Sas, soutenue cette fois par le PS.
Merci Steven Goyer. Vont-ils paralyser la France? La question occupe tous les esprits depuis que les gilets jaunes ont appelé à bloquer les routes et les points stratégiques demain lors d'une mobilisation générale citoyenne à travers tout le pays. De son côté, l'exécutif, pris de vitesse par ce mouvement de défiance, tente par tous les moyens et jusqu'au bout de le désamorcer. Ce matin encore, le Premier ministre Édouard Philippe était dans l'Essonne pour défendre la prime à la conversion que le gouvernement va renforcer afin d'aider à l'acquisition de véhicules moins polluants. Dans le même temps, l'opposition, elle, continue à louvoyer pour clamer son soutien aux gilets jaunes, tout en prenant soin de ne pas être accusé de vouloir récupérer ce mouvement qui se revendique apolitique. Quant au secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, invité ce matin de nos confrères de France Inter, lui dénonce des récupérations pas uniquement politiques, mais aussi patronales. On l'écoute.
Dans ces citoyens qui sont sincères, qui n'en peuvent plus, et c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, il y a des récupérations, pas que politiques, patronales aussi. Parce qu'on sait bien que derrière non à l'augmentation des taxes, il y a un certain nombre de patrons qui, dans taxes, mettent cotisation sociale, par exemple. Or, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez, et y compris des grands patrons, même. Monsieur Leclerc, par exemple, qui favorise les arrêts de travail, ce qui est assez original, demain, et aide à la participation à ces mobilisations.
Voilà, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour.
Philippe Martinez, a-t-il raison de pointer ainsi la récupération de ce mouvement par les patrons ?
Oui, de la récupération, on peut en voir à tous les étages dans la mobilisation des gilets jaunes. Les patrons, dont parle Philippe Martinez, c'est essentiellement ceux de la grande distribution, et en particulier Michel-Édouard Leclerc, le chantre du pouvoir d'achat. Il faut choisir son camp, disait-il il y a quelques semaines, et son camp, c'est clairement les clients qui potentiellement se cachent derrière tout gilet jaune. Mais son opération carburant à prix coûtant lui aura coûté bien moins cher qu'une campagne de publicité, qu'elle n'aura fait faire d'économie à ses clients, 1 à 2 centimes par litre de carburant, bref 50 centimes d'euros environ sur un plein d'essence. Et sous le gilet jaune, il y a aussi évidemment un électeur, d'où le soutien de nombreux partis, au premier rang desquels le Rassemblement National, qui se retrouve très à l'aise dans un mouvement qui a pris forme autour d'un mot d'ordre très simple, pour ne pas dire simpliste. D'autres élus aussi, d'autres partis soutiennent ce mouvement de ras-le-bol en réaction à une politique menée par un président qui n'a pas d'ancrage local. Mais pour autant, les gilets jaunes sont des Français qui vivent en zone rurale et périurbaine, de classe moyenne, pas forcément aux revenus modestes d'ailleurs. Et le seul vrai point commun visible de ces manifestants, c'est qu'ils sont automobilistes. Le problème pour le gouvernement est qu'il est bien plus facile de dénigrer des cheminots pour décrédibiliser un mouvement social que de dénigrer l'ensemble de ses concitoyens. Car ce mouvement de colère a quelque chose de très nouveau pour le pouvoir. Il est spontané, protéiforme, il se nourrit sur les réseaux sociaux. Il n'a ni leader, ni structure, donc imprévisible et incontrôlable. Le gouvernement se retrouve maintenant directement face au peuple avec aucun corps intermédiaire ou interlocuteur pour négocier.
Merci Annabelle Grelier. Pour poursuivre le débat, invité aujourd'hui de la page Europe en direct et en duplex depuis les locaux de France Bleu Picardie, Karima Delli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, présidente de la commission transport au Parlement européen. Bonjour madame.
Bonjour.
Avant de céder la parole à Annabelle Grelier, une première question madame Delli. Comment comprenez-vous ce mouvement des gilets jaunes où visiblement les gilets verts manquent cruellement à l'appel ?
On peut le comprendre, c'est que les temps sont durs pour tout le monde, chaque centime compte. Mais je crois que vraiment que les gilets jaunes, qui se sentent un petit peu aujourd'hui arnaqués, raquettés, ils se sentent punis, on peut le comprendre parce que la vie est un peu dure, mais je pense que ce n'est pas là où il faut attaquer. Je pense qu'aujourd'hui, moi personnellement, s'il y a bien quelqu'un qui les arnaque depuis 40 ans, qui dit que le diesel, allez-y, achetez, c'est plus propre, c'est moins cher, etc., c'est quand même les constructeurs automobiles, et on leur demande pas trop de comptes aux constructeurs automobiles.
Oui, alors justement, quelle arnaque vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'on ne pense pas de nouvelles technologies ?
Écoutez, depuis 2015, vous savez, ce fameux qui est devenu d'abord l'affaire Volkswagen, ensuite est devenu le Dieselgate, on s'est rendu compte de quoi ? On s'est rendu compte des constructeurs qui vendent des voitures poubelles et qui émettent en moyenne 40% de plus que les normes européennes sur la pollution de l'air. Donc là, on a un dégât sanitaire en termes de santé. Et en plus de ça, on vend des voitures qui consomment énormément. C'est peut-être le moment aussi de se dire, et si on faisait comme dans les autres pays, c'est-à-dire que vraiment les constructeurs automobiles, eh ben, on l'a vu aux États-Unis, eh ben, ils ont payé, notamment parce qu'ils avaient arnaqué les consommateurs et notamment les automobilistes. On peut faire la même chose en Europe, donc il faut y aller. Et moi, je crois que les automobilistes aujourd'hui, il faut faire de deux types d'automobilistes. Moi, je comprends ceux qui n'ont pas le choix de prendre leur voiture parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure de transport, les périurbains, les zones rurales. Mais les autres, c'est-à-dire ceux qui sont dans la majorité des cas, dans les villes, qui prennent leur voiture pour faire moins de 3 km, et ben ça, je trouve ça irresponsable parce que les alternatives existent.
Et justement, alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement s'y est bien pris ? Est-ce que l'écologie, une fois de plus, n'a pas été un peu le bouc émissaire de tout ça ?
L'écologie, aujourd'hui, je comprends les gilets jaunes, la couleur est rouge, mais le tracé doit être vert. Il est grand temps de mettre en place la transition énergétique. Et le problème que nous avons, c'est que les Français n'ont pas très bien compris où allait leur argent. Ils se disent, on est prêt à payer, parce que nous, on veut faire aussi de l'écologie. L'enjeu écologique est déterminant depuis le départ de Nicolas Hulot. Ça s'est ressenti partout en France. Mais dites-nous à quoi ça nous sert, justement, de payer plus de taxes. Et là, on a un problème. Il n'y a que 10% qui vont dans la transition énergétique. Alors, gouvernement, hop, il faut se réveiller. Il ne faut pas mettre 10%, mais 100%. 100% du produit de ces taxes doit être mis en place pour les alternatives à la voiture individuelle et trouver des solutions pour les périurbains et pour les zones rurales. Parce que vous savez quoi ? Le prix des carburants ne va faire que augmenter. Et on va pas se battre pour la dernière goutte de pétrole. Donc c'est maintenant qu'il faut faire, hop, le virage de la transition énergétique et on a besoin de tout le monde.
Et alors les annonces que fait le gouvernement, les primes, et puis pour aider à changer de véhicule, qu'est-ce que vous en pensez ?
Il faut faire une politique globale de mobilité. Ça sert à rien de donner des chèques pour dire continuez la voiture, lorsqu'on n'en a peut-être pas besoin. Il faut absolument faire les alternatives. Les alternatives, c'est par exemple faire en sorte que demain, les camions soient plus sur nos routes. Demain, on peut relancer le train, aller plus de fret. Et si on rénovait les petites lignes, notamment dans les zones rurales où on avait l'habitude d'y aller. Allez, on relance les petites lignes, on rénove tout ça. C'est ça qui est intelligent. Et aussi, il faut inventer le covoiturage, l'autopartage. Tout ça, on est en capacité de faire. Maintenant, les priorités, c'est aussi tous ces gens qui n'ont pas accès à la mobilité parce que c'est cher ou parce qu'ils ne sont pas des services. Ce qu'on appelle les précaires de la mobilité, c'est sur eux qu'il faut aussi mettre en place la priorité. Et donc, je dis juste aux gilets jaunes, aujourd'hui, je comprends votre colère. On peut la comprendre, mais moi, je le dis tout simplement, ne vous trompez pas. Si demain les gilets jaunes veulent faire une manifestation pour faire payer les constructeurs, j'en serai. S'ils veulent faire payer et réclamer une écotaxe, bah on dit pas écotaxe, on dit euro-redevance sur les poids lourds, j'y serai. S'ils veulent faire payer et mettre en place le principe pollueur-payeur, bah j'y serai parce que la planète, elle en a besoin.
Alors justement, dernière question, parlez-nous de l'euro-redevance, hein, Karima Deli.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle. Le Parlement européen a adopté une redevance. Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une taxe poids lourd qui va être adoptée et appliquée à l'ensemble des 28 États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les poids lourds, on les taxe sur le CO2 et sur le bruit. Ce qui est une nouveauté. On ne prend plus en compte le temps, mais ça va être calculé sur les kilomètres. Et vous savez quoi ? La plus-value, c'est que c'est fléché. Ces recettes vont aller dans la mobilité urbaine durable pour la relance, notamment des petites lignes. Sur cette volonté aussi de faire demain de la mobilité partagée. Donc c'est des plus. Donc, Vous savez, tous les hypocrites, parce qu'on a aussi beaucoup d'hypocrites qui disent « Oh là là, voilà ce qu'il faut faire, etc. » et qui n'ont rien fait. Je parle notamment de l'écotaxe qui est une honte en France parce qu'on n'a toujours pas d'écotaxe. Et ben moi, je leur dis tout de suite, le virage maintenant, ben c'est de mettre en place une euro-redevance parce que c'est un manque à gagner depuis des années. On en parle déjà depuis le Grenelle de l'environnement. C'est 3 à 4 milliards d'euros hein, qu'on n'a pas dans nos caisses et qu'on pourrait vraiment mettre à la disposition de la mobilité du quotidien pour nos citoyens. Alors allons-y.
Merci Karima Deli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts et présidente de la Commission Transport au Parlement européen d'avoir été en direct avec nous. Merci également à nos confrères de France Bleu Picardie d'avoir permis ce duplex et merci à Annabelle Grelier. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une grisaille toujours plus tenace sur le nord du pays. Quelques éclaircies parviendront à se développer entre le sud-ouest et le nord-est. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 8 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Sophie Delpont pour le prochain journal de la rédaction.